Salut à tous, bienvenue sur Radio Shad. On est le lundi. Lundi, alors je suis un peu perdu avec la 18 mars 2024. Et ce soir, c'est l'émission spéciale jeux vidéo. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait une émission sur les jeux vidéo. Et voilà, on l'a fait ce soir. La dernière fois qu'on l'a fait, c'était il y a plusieurs mois, il me semble. Et donc, ça va être l'occasion ce soir de revenir un petit peu sur l'état du marché. Qu'est-ce qui se passe dans l'espace? Quels sont les types de jeux vidéo qui sont en ce moment qui fonctionnent? C'est quoi leur modèle économique? C'est quoi le modèle économique d'ailleurs d'un jeu vidéo qui fonctionne tout simplement? Est-ce que on est arrivé sur des nouveaux modèles? Est-ce que bon, il y a plein de questions que j'ai envie de poser. Et donc pour ce faire ce soir, j'ai invité Eni Magique. Alors, je ne sais pas quel est le prénom de la personne qui est avec nous ce soir.
Hello. moi, c'est Julien. Enchanté. Je me suis connecté avec Julien. Le compte Eni Magique.
Mais... Ça va?
Ouais, super. Et toi?
Bah, ça va.
Un plaisir de pouvoir
discuter avec toi. Il n'y a eu pas... Ouais, pardon.
Non, il n'y a pas de souci.
En fait, je disais qu'il n'y a pas de musique pour intro. D'habitude, il y a de la musique, mais là, je n'ai pas, pas le matos avec moi. Alors, mais ça va être résolu dans les jours qui arrivent, j'espère. Voilà, c'est tout. C'était juste le truc. Et salut Oxmo, Oxmocieux. Donc ouais, c'est ça. D'habitude, le lundi, c'est une journée, c'est une soirée art. On parle essentiellement, on invite des artistes, etc. On parle d'art, en fait, c'est ça. On essaie de se poser des questions sur l'avenir de l'art lié à la blockchain, la plupart du temps. Et là, je suis vraiment content de faire un truc, de revenir un peu sur le jeu vidéo, parce que le jeu vidéo, c'est un peu de l'art aussi. D'ailleurs, ouais, c'est plusieurs arts, en fait, on pourra peut-être dire. Et aussi, c'est un sujet, c'est peut-être aussi une des prochaines narratives du prochain bull market ou du bull market qu'on est en train de vivre maintenant. D'ailleurs, t'en penses quoi, toi, de ça? Est-ce que tu penses que est-ce que c'est encore trop tôt ou ça va arriver, l'avènement des jeux vidéo blockchain?
Ah non, moi, je suis complètement d'accord avec toi. C'est un des sujets principaux. Du boule en cours ou des prochains boules qui vont intervenir. Maintenant, oui, évidemment, ça pourra prendre peut-être un peu de temps. En tout cas, les jeux qui vont attirer le plus grand public possible, plus mainstream, on va dire, ça prendra quelques temps avant de vraiment se rendre disponible et attractif pour tout le monde. Mais oui, ça fait partie des narratifs les plus importants du prochain bull run, je pense. Avec d'autres
D'ailleurs, on
sujets,
va en parler ça de.
Oui.
Ouais, on va en parler clairement de justement qu'est-ce qui fait qu'un jeu soit comment dire séduisant pour le mainstream. Mais avant ça, j'ai envie de parler d'un truc parce que est-ce que tu connais est-ce que t'as essayé Farcaster?
Non, j'ai pas essayé Farcaster. Je ne pense pas.
Alors, on m'en a parlé. On en avait parlé plein de fois pendant l'émission. Et donc, du coup, ce week-end, j'ai décidé de regarder ce que c'est. Mm-hmm. J'ai installé Farcaster et je dois avouer que je suis un petit peu, je suis quand même un peu enthousiaste. Et justement, en fait, je pensais que c'était juste un énième Twitter, mais c'est un petit peu plus que ça.
D'accord.
C'est-à-dire qu'en fait, il y a un truc qui est vraiment particulier, qui est vraiment différent de toutes les autres alternatives à Twitter, c'est le concept de frames. Et les frames, en fait, c'est la possibilité d'intégrer dans le feed des applications. Et donc, ça fait que tu peux interagir avec des choses sans nécessairement sortir de l'application. Voilà. Et c'est donc n'importe qui peut coder ce truc-là. Donc, je me suis un petit peu renseigné de comment on fait, etc. Il y a un petit peu de gymnastique à faire. Ouais, c'est vraiment cool. Et justement, donc ça passe par le ludique en fait, parce que le truc c'est d'intégrer de l'interaction dans le feed quoi.
D'accord.
Donc tu peux avoir des espèces de mini-jeux, tu peux avoir des trucs très simples hein, comme un formulaire, tout ça, où tu poses une question, mais il y en a qui ont fait des chats, il y en a qui ont fait des mini-jeux, etc. Donc ça peut aller loin, en fait, même si la plupart du temps, ça reste quand même des situations assez basiques pour le moment. Mais voilà, je suis assez enthousiaste par rapport à ça.
C'est cool.
Je vais essayer ouais. Est-ce que tu es toi-même développeur un peu?
J'ai appris à développer un petit peu lors de mes études et je continue à aider mes équipes tech lorsque je peux. Mais c'est vrai que c'est moins ma spécialité sur le sujet, donc je préfère laisser des experts s'occuper des sujets importants. Mais oui, j'aime bien toucher un petit peu et comprendre ce qui se passe, c'est important.
C'est quoi ton rôle au sein de Animagique?
Je suis directeur général président, donc je suis cofondateur et je m'occupe de toute la partie donc stratégie, commerciale, commercialisation et production également du produit, du jeu.
Ok.
D'ailleurs, oui.
Et oui,
Non, mais
vas-y.
je disais bah, justement par rapport aux auditeurs, les quelques auditeurs qu'il y a, on peut peut-être, si tu veux, présenter rapidement Animagic, comme ça ils comprennent un peu plus mon
Ouais,
profil.
ouais. Ouais, carrément.
Ok, super. Donc voilà, donc moi je me suis présenté très rapidement, mais donc je m'appelle Julien. Moi je viens d'un background qui est à la base très entre ingénieur et finance. J'ai commencé par des études d'ingénieur, ensuite j'ai travaillé en finance pendant quelques temps. Mais bah, il y a la passion de cette technologie qui est intervenue assez tôt pour moi, donc à partir de 2015-2016. Et donc j'ai voulu m'instruire, je me suis beaucoup instruit donc en écoutant par exemple des podcasts, en lisant des articles, des white papers à droite à gauche pour justement comprendre l'écosystème. Et c'est pour ça qu'en 2021, fin 2021, j'ai décidé de faire cette conversion. Et donc j'ai rejoint mon cofondateur, Pablo, pour cette aventure, donc, qui est un projet qui s'appelle Animagic. C'est un MMORPG inspiré un peu de World of Warcraft, sur lequel en fait on a ajouté une économie play and earn. Sur la blockchain Polygon. Donc l'idée, c'est en fait de conserver un gameplay intuitif, interactif et attirant pour les joueurs, tout en amenant en fait ce côté économique qui peut être aujourd'hui possible dans le gaming grâce à la blockchain.
Ok, je vois. Ouais. Et ça en est où?
Bah écoute, ça se passe bien. On a fait la release du jeu récemment, donc c'était en février. On a release le jeu pour l'instant. Donc en fait, on a créé une expérience de notre univers sur un métavers qui s'appelle Decentraland. Et sur donc la release a eu lieu en février. On a un peu plus de 1000 joueurs dans la database, avec en fait une moyenne d'à peu près 50 joueurs qui se connectent daily, quotidiennement. Il y a eu plus de 2500 heures de jeu accumulées par les joueurs et ça se passe super bien. On a annoncé aujourd'hui le prochain événement qui aura lieu du coup la semaine prochaine, qui vient en fait justement amener des nouvelles fonctionnalités, du nouveau gameplay en fait pour les joueurs et donc ils vont pouvoir tester ça, nous faire leur feedback et leur retour là-dessus pour qu'on puisse nous justement améliorer notre expérience. Et bien sûr, ils peuvent gagner des tokens, des NFT, des assets in-game et autres pendant cet événement. Il y a différentes manières de le faire. Donc, soit en atteignant un certain niveau grâce à leur performance, il y a également un classement. Bref, il y a plein d'autres manières comme ça de venir gagner quelque chose grâce à cette expérience de jeu.
Et du coup, ça ressemble quoi alors? Ça ressemble à quoi l'économie d'un MMORPG qui est basé sur la blockchain? Est-ce que t'arrives à faire un truc qui s'auto-suffit sans que t'aies besoin d'injecter des nouvelles liquidités ou quoi que ce soit? C'est un truc. Est-ce que c'est possible d'avoir une économie comme autonome, entre guillemets?
Alors oui, totalement, mais pour avoir une économie comme t'en parles, Anthony, ça va être plus au sujet en fait à partir d'un certain nombre de joueurs. Ça va être compliqué de pouvoir avoir quelque chose d'autonome qui peut se réguler tout seul et qui peut en fait où il y a assez de circulation entre les joueurs pour pas avoir justement à devoir injecter ou à devoir justement travailler sur cette économie pour l'améliorer et faire en sorte que ça se passe bien pour les joueurs. Il faut atteindre un certain nombre de joueurs. Aujourd'hui, voilà, je l'ai dit, nous, on est à peu près à un peu plus de 1000 users sur la database. On a un objectif sur les prochains mois qui est 10 000. Et à partir de ce chiffre-là, on va pouvoir justement lancer la possibilité de trade des assets entre les joueurs directement in-game. Ce qui ferait que l'économie, en fait, va permettre une circulation de la supply des différents items de manière assez, justement, assez contrôlée et assez autonome, comme tu le disais.
Mais comment ça se passe concrètement? Parce que j'ai pas du tout testé le jeu, donc j'ai aucune idée
Yes, il n'y a pas de souci.
de à quoi ça ressemble.
Il n'y a pas de...
C'est quoi le c'est quoi l'économie? Est-ce que donc il y a genre un token que les gens utilisent pour acheter des trucs in-game et puis ensuite est-ce qu'ils gagnent de l'argent en accomplissant des quêtes, des choses comme ça? Et est-ce que si c'est le cas, est-ce qu'il y a un token avec c'est quoi la politique économique du truc
Bah
et tout
écoute,
ça? Est-ce que
c'est très
tu peux en
intéressant.
parler?
Je vais essayer de présenter ça de manière assez concise et compréhensive et intuitive. En fait, aujourd'hui, nous, on n'a pas encore sorti de token. On ne voyait pas l'intérêt de sortir un token pour sortir un token, avec justement en mettant en avant, comme l'a fait énormément de projets gaming blockchain, avec leur objectif principal qui était bah, la partie financière, la partie économique de leur expérience gaming. Nous, ce qui se passe, c'est qu'on a des équipements dans le jeu qui sont donc, ça peut être une épée, ça peut être une armure ou autre, qui sont des tokens, qui sont des NFT, qui peuvent être gagnés in-game, donc justement en fonction des performances des joueurs, où parfois on lance des challenges, il y a des classements mensuellement qui sont faits avec les 5 premiers qui gagnent des équipements et autres. Ces équipements sont des tokens donc, que les joueurs peuvent soit utiliser in-game justement pour augmenter un petit peu leur capacité, en fait donc leur point de vie ou autre élément de ce type-là, ou ils le peuvent directement donc le vendre sur une marketplace, notamment pour l'instant la marketplace de Decentraland, mais ça peut se faire aussi sur une marketplace plus populaire comme OpenSea ou autre. Donc au niveau de l'économie qui existe aujourd'hui dans Animagic, en fait le joueur va pouvoir commencer son aventure. Je vais lui offrir un premier NFT qui est un outil, donc qui va être en fait une hache ou une canne à pêche ou un outil de ce type-là. Grâce à ça, il va pouvoir effectuer son métier, remplir des quêtes, combattre, participer aux challenges, aux événements et autres. Et justement, bah, crafter lui-même, s'il a assez de ressources, un nouveau NFT ou le gagner voilà, en étant performant dans les classements et autres. Et c'est en fait comme ça que l'économie va se créer. Pourquoi aujourd'hui on n'a pas sorti de token justement pour rémunérer le joueur directement par du token toutes les semaines ou tous les mois en fonction de ses performances? C'est qu'on a voulu mettre en priorité en fait l'expérience de jeu et notre communauté. Donc ce qui se passe, c'est qu'en fait on sort de manière assez régulière des nouvelles fonctionnalités. On demande à nos joueurs via un événement de les tester, de nous donner leur avis, justement pour qu'on puisse améliorer cette expérience. Et c'est de cette manière-là, en fait, qu'on prévoit de construire Animagic petit à petit en collaboration avec notre commu pour améliorer l'expérience et pouvoir proposer un gaming attractif qui va plaire, en fait, à la plupart des gamers avant de pouvoir, justement, développer une économie plus concrète avec un token qui aurait un rôle bien précis in-game ou en dehors.
Ouais, t'es
Un
parti
peu loin. Je t'écoute.
légèrement en mode marketing et tout, mais c'est cool. Mais en gros, ce que je me posais comme question, c'est qu'est-ce qui est en fait, qu'est-ce qui est blockchain et qu'est-ce qui l'est pas? Par exemple,
D'accord.
tu parlais de des ressources, par exemple, tu parlais de prendre des ressources pour pouvoir
Bien sûr.
crafter ses propres outils, etc. Est-ce que ces ressources-là, par exemple, elles sont sur la blockchain ou est-ce que c'est un truc à l'ancienne
Aujourd'hui, ça ne l'est
faite
pas. Aujourd'hui, c'est un
Ok.
truc à l'ancienne, comme tu dis, très gaming, qui est en fait un asset in-game. Donc, il n'y a pas vraiment de supply, il n'y a pas vraiment de. Mais ces éléments-là, comme les ressources et autres, sont aujourd'hui donc surtout un moyen en fait pour les joueurs bah, d'augmenter leur monnaie in-game et d'augmenter en fait leur capacité pour créer des tokens qui sont sur la blockchain. Donc notamment les outils, comme je t'ai expliqué, avec les épées et autres, et également les vêtements et autres qui sont, eux, des NFT.
Ok. Alors j'ai deux trucs à dire, mais en attendant, je vais donner la parole à Cryptomancien, ça va?
Bonsoir. Le sujet des MMO, c'est assez passionnant et c'est assez complet. Moi, je joue un jeu qui ressemble un petit peu à ce que tu fais. Ça s'appelle EVE Online, où faut récolter des ressources, faut faire des alliances, crafter des vaisseaux, faire du commerce, faut avoir des munitions, tout ça. C'est assez passionnant.
Exactement.
Et en fait, enfin, il y a un truc qu'il faut un petit peu avoir en tête pour les créateurs du jeu. C'est-à-dire que en règle, en théorie, on n'a pas trop, enfin, un éditeur de jeu n'a pas trop le droit. Enfin, il doit être maître de l'économie de son jeu. C'est-à-dire que s'il fait une monnaie pour l'économie du jeu, il n'a pas le droit que ça sorte du jeu. C'est-à-dire que typiquement, enfin, Blizzard, ils ont ce problème. CCP, qui font EVE Online, ils ont ce problème. Voilà, c'est-à-dire que si un joueur se fait choper, enfin, à revendre des tokens, enfin, pas des tokens, mais des assets en peer-to-peer sans passer
Game.
par. Ouais, il se
Oui.
fait, bah, il se fait, il risque le bannissement, quoi.
Oui, bah complètement. Bah, alors, le sujet que tu mentionnes, il est très intéressant parce qu'en fait, pour moi, il présente deux éléments qui sont essentiels aujourd'hui dans le gaming Web3. Ça va être donc la partie régulation. Donc aujourd'hui, il y a des sujets de régulation qui existent parce que bah, pour l'instant, il y a un flou juridique autour du gaming blockchain parce qu'on ne sait pas vraiment, vu que c'est du token, est-ce que c'est du jeu d'argent, est-ce que c'est du gaming classique, comment ça va fonctionner et autres. Et il y a un deuxième sujet qui est entre guillemets en partie répondu par la partie blockchain, qui est que, bah, enfin, moi je prends un exemple pour moi qui est assez concret, et qui va parler à tout le monde, c'est Fortnite. Aujourd'hui, Fortnite, oui, c'est interdit, comme tu le dis, de pouvoir revendre ses skins ou autres en dehors de la plateforme, enfin à d'autres joueurs. Mais si Fortnite était tokenisé et que les skins représentaient des NFT, bah, ça serait faisable de le faire directement sur différents marketplaces sans souci. Et c'est là où on voit beaucoup plus l'image de l'utilité du token dans le gaming. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question ou si justement je pars un petit peu de l'autre côté.
Ouais, on prend parti, ouais, on prend.
Donc voilà pourquoi aujourd'hui, pour moi, le gaming en fait représente un des sujets majeurs en fait pour l'adoption du Web3. C'est un peu ce qu'on a vu aussi avec Internet, et c'est ce que je pense qu'on va voir avec la blockchain, c'est que le gaming en fait va permettre petit à petit l'adoption grâce notamment à l'utilité de la blockchain dans le gaming, qui doit être très précise. Il faut pas mettre de la blockchain partout juste pour mettre de la blockchain. Tu vois, on a eu une discussion il y a une seconde avec Anthony sur le sujet des assets in-game, donc les ressources, le bois et autres. Aujourd'hui, pour moi, ça n'a aucun intérêt de tokeniser ça, sauf bah, essayer de surfer sur la vague de la blockchain. Ce n'est pas mon objectif. Mon objectif, c'est de proposer une expérience de jeu qui a du sens. Et donc, c'est pour ça que ce qui est tokenisé, c'est les équipements. Ce qui va être tokenisé plus tard, ça sera une monnaie in-game, justement pour favoriser les échanges de ressources et autres entre les joueurs. Et que les joueurs, donc, qui prennent du temps pour cette expérience et qui justement performent grâce à leur expérience gagnée, eux soient récompensés. Mais ça se fait en plusieurs
Mais
temps.
alors pourquoi tokeniser des ressources, ça fait pas de sens, et pourquoi tokeniser
Les équipements.
des items,
Oui.
ouais, des équipements, ça fait du sens.
Alors, je précise les ressources et autres. Quand je dis ça fait pas de sens de les tokeniser, je parle aujourd'hui, en tout cas pour moi, dans mon cas précis qui est Animagic, je ne voyais pas l'intérêt de les tokeniser dans le sens où on a une communauté de joueurs qui est pour l'instant assez restreinte. On est autour de 1000 joueurs. Et tokeniser une ressource et donc lui donner une supply définie, devoir donc créer son économie, sa logique, la manière dont elle va fonctionner, comment on va pouvoir la récupérer, comment on va pouvoir la vendre, quel prix elle a, etc. Avec une population très réduite, ça fausserait en fait l'économie du jeu futur. Et c'est pour ça que les équipements, ça a du sens parce que bah, dès maintenant, moi, je suis capable en fait d'établir une supply limitée par type d'équipement qui va apporter une rareté, etc. sur les équipements que les joueurs vont pouvoir gagner, crafter, échanger, acheter et autres, alors que les ressources vont plus être liées vraiment au nombre de joueurs et à leur activité in-game. Donc ça a du sens, mais à un certain moment, selon le timing. En tout cas, selon moi.
Ok, ouais. Magiking, ça va?
Oui,
C'est grave. Je suis en train de me faire des pâtes, là. Mais j'espère qu'il n'y aura pas trop de bruit en fond. Non, mais je suis arrivé au milieu de la conversation. Mais dans tous les cas, maintenant, donc attends, si je comprends bien, tu mets un token dans un MMORPG, mais en fait, le token, c'est juste une c'est ça.
Alors,
c'est juste une quoi ?
Monnaie de paiement.
Ah, okay. Alors non, aujourd'hui, les seuls items, assets qui sont tokenisés, ce sont les équipements. Donc ça va être l'épée, ça va être l'armure, ça va être ces équipements de ce type-là. Aujourd'hui, dans Animagic, c'est les seuls éléments qui sont tokenisés parce que justement, on veut pouvoir améliorer l'expérience de jeu et créer une économie qui aura du sens en fonction des joueurs et en fonction de leur activité. Et l'idée, ça va être justement de partir sur cette base d'assets tokenisés qui sont seulement les équipements, donc les armes, les armures et autres.
J'ai entendu airdrop. Tu vois, airdrop des points.
Airdrop ? Non, je ne pense pas avoir utilisé ce terme-là, mais si tu peut-être. Airdrop des quoi, pardon ?
Airdrop des points, parce que comme c'est les. Tu vois, comme tu veux leur offrir des choses, j'imagine que ça arrive a posteriori. Donc tu vas compter d'une certaine manière. Des choses, non ?
Alors, ce qui va être airdrop aujourd'hui, enfin, ce qui va être give et donné aux joueurs en fonction de leur activité, ça va être ces tokens, ça va être ces équipements. En fait, je vais essayer de résumer, d'expliquer un peu plus. Alors, je reste très précis par rapport à Animagic là pour l'instant, parce que c'est des questions qui donc, nécessitent un exemple précis. Mais par exemple, chez nous, dans Animagic, il y a différents types d'équipements. Donc ça va être les outils et autres. Et il y a 5 classes de personnages. Alors, aujourd'hui, il n'y en a que 3 qui sont sortis. Ça va être le villageois, les chevaliers et les mages. D'accord ? Chaque type de personnage a en fait différents types d'équipements sur lui. Donc le villageois, il a un haut du corps, bas du corps. Le chevalier, il a une armure haut du corps, bas du corps et des chaussures. Le mage, il a un chapeau. Bref, vous avez compris l'idée. Et en fait, ce qui va être aujourd'hui give aux joueurs, en fonction de leur performance, de leur classement et d'autres choses de ce type-là, ça va être ces équipements-là. Parce que ces équipements-là, le joueur, moi, je vais offrir, en fait, je vais give les niveaux 1 de, par exemple, le haut du corps du villageois, et le joueur va pouvoir, in-game, en fonction du temps passé et de ses performances, va pouvoir l'upgrade au niveau 2, 3, 4 et 5. Et en fait, c'est de cette manière-là que déjà, je vais pouvoir, alors là, on part sur un autre sujet, mais j'en parle tout de même parce que c'est intéressant, que je vais pouvoir en fait, donner une valeur à ces tokens parce que le joueur va, oui, obtenir gratuitement en participant quelques heures le niveau 1, mais il va devoir passer beaucoup de temps dans le jeu et il aura quelques frais à avoir pour pouvoir l'upgrader à un niveau supérieur. Et donc, il n'aura aucune raison derrière de considérer ce NFT-là à un prix complètement dérisoire puisqu'il aura pris le temps et il aura travaillé pour pouvoir récupérer ce niveau supérieur. Je ne sais pas si ça répond à la question.
Ce que tu dis là, en fait, ça rejoint peut-être un peu la question que je voulais te poser. D'accord. Qui, en fait, je voulais reprendre un peu sur la distinction tout à l'heure entre les ressources et les équipements. Oui. C'est en fait, qu'est-ce qui fait que tu décides ce qui va être sur la blockchain ou pas, en fait, ce qui va être tokenisé ou pas, finalement. C'est quoi les critères que tu prends en compte pour dire, OK, ça mérite d'être limité en nombre, ça mérite d'avoir une valeur qui est décidée par le marché plutôt que par nous, etc. C'est quoi les critères qui font te prendre la décision de OK, ça va être sur la blockchain, ça va être sur côté enfin serveur, ça va être nous illimité, etc. Voilà.
Pour répondre à la question, je pense qu'en fait il faut le voir sous forme de il faut le voir sous la forme sous forme chronologique en fait. C'est-à-dire que dans un premier temps nous considérons, c'est vrai, nous les créateurs, que ce qui a du sens d'être tokenisé, c'est ces équipements. Pour quelle raison ? Parce que ces équipements sont des objets donc, qui permettent d'augmenter les facultés du joueur, puisque s'il obtient telle épée en battant tel boss, eh ben, il va obtenir plus de points de vie, plus de points de force, et donc il va être plus fort in-game, et donc il va gagner de l'expérience. D'accord ? Et donc ces objets-là, qui ont une utilité in-game importante, doivent être pour nous tokenisés, mais la valeur qui leur est donnée doit être faite par les joueurs. Donc, c'est pour ça que c'est les joueurs qui donne de la valeur à ces tokens, parce que nous, aujourd'hui, nous ne les vendons pas. Le joueur les gagne et il décide de la valeur qu'il leur donne. Par contre, pour tout ce qui est des autres éléments qui pourraient, oui ou non, être tokenisés, je ne suis pas fermé à les tokeniser. C'est juste que je pense que c'est un sujet qui nécessite beaucoup plus de réflexion et j'ai besoin d'avoir plus d'informations. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on a tokenisé les équipements, on travaille en collaboration avec notre communauté pour améliorer l'expérience de jeu et déterminer justement ce qui pourrait, oui ou non, être tokenisé.
Ok. Bah, ça fait du sens. Et c'est marrant, en fait, tu as une approche qui est d'intégrer finalement la blockchain dans le jeu. Et il y a une autre méthode. Mm-hmm. Alors, je suis en train de regarder mes petits onglets. Et en gros, c'est ça. Il y a un jeu qui est arrivé, mais c'est pas nouveau hein, comme truc. Mais j'ai vu mes potes qui jouaient à ça et ça m'a fait marrer. Et surtout quand en plus on avait un sujet qui était relié à ça ce soir. Et en gros, il y a un jeu qui fait fureur. Je crois que c'est sur Blast. C'est un jeu blockchain, mais en vrai, c'est de la DeFi, en fait. C'est de la DeFi déguisée en jeu. C'est de la DeFi gamifiée, si tu veux. Donc, en gros, je connais pas le truc. T'as une espèce de map avec toutes sortes de ressources, des arbres et tout. Ça ressemble un peu à un truc à la Zelda. Mmh. Et puis c'est ça. Puis t'arrives avec ton bonhomme, et puis tu parles à des gens, et puis tu vas chercher des ressources, etc. Mais en fait, toutes les histoires de ressources et tout, en fait, c'est en gros, c'est des tokens, quoi. Et genre, c'est de la DeFi, mais avec une interface de jeu vidéo, quoi. Et je trouve ça super drôle. Et donc, il y a plein de gens qui jouent à ça. Et tout est on-chain. Et en gros, c'est vraiment le chemin inverse, finalement, de ce que toi, tu fais. C'est-à-dire que ça part de la blockchain et ça amène des éléments de jeu. Et ça, ce truc-là, cette démarche-là, elle a souvent été critiquée dans le passé parce que ça faisait pas vraiment des jeux, des vrais jeux comme on les conçoit traditionnellement. C'est-à-dire qu'en fait, t'es là pour faire de l'argent et c'est juste c'est juste que l'activité de faire de l'argent, elle est un peu moins désagréable que d'habitude.
Exactement. C'est un peu l'idée.
Ouais. Alors que toi, tu prends le truc inverse, c'est tu prends un truc qui est cool. C'est un passe-temps d'avoir du plaisir à jouer à un jeu, un bon jeu, et t'essaies d'amener cette dimension quand même de rémunération, ce qui est aussi un petit peu une sorte de gymnastique quand même, parce que vu que tu t'apportes un élément quand même de grid quelque part. Il y a quand même l'idée de pas édulcorer mais c'est ça de d'entamer un peu l'expérience qui est censée être entièrement ludique à la base, mais bon, non, en même temps c'est pas un truc complètement nouveau, comme tu l'as mentionné tout à l'heure, il y a tous les jeux traditionnels qui existent, il y a une économie sous-jacente dès que les mecs se mettent à grind pour pouvoir, c'est ça, aller chercher des armures spéciales, des machins comme ça qui vont ensuite revendre sur le marché noir, etc. Donc il y a toujours cette dimension, peut-être pas toujours, mais ça existe surtout depuis que c'est online, quoi. Ouais. Et donc qu'est-ce que tu penses de ça? Alors je sais pas, j'ai pas de questions précises à poser par rapport à ça, mais est-ce que tu as déjà pensé à cette idée de faire le chemin dans le sens inverse, c'est-à-dire de faire un truc qui avant tout un espèce de mécanisme géant d'une économie, mm-hmm. avant tout, et par-dessus ça, faire le jeu, en fait.
Écoute, c'est très intéressant dans le sens où c'est justement la problématique presque principale du marché gaming Web3 aujourd'hui. Ouais. C'est qu'en fait, en 2018-2019, lorsqu'on a eu les CryptoKitties et les Axie qui sont sortis, qui ont amené cette dimension de play to earn, avec l'idée de NFT que tu peux gagner, enfin grâce à ces NFT tu vas pouvoir gagner des sous en jouant juste d'une manière assez ludique. De là, il y a une grosse hype qui est arrivée avec des millions de joueurs qui ont rejoint le, l'écosystème Web3 pour justement générer des revenus. Alors, c'est principalement des communautés qui viennent de pays un peu défavorisés, donc Amérique latine ou autre, parce que ça représente des sommes quand même assez intéressantes pour eux et un peu moins pour les pays développés, pour les pays plus développés, on va dire. Mais ce qui ressort de ça sur les quelques années, juste notamment pendant les années de bear market, où justement il y avait cette dimension de « ok, mais est-ce que c'est suffisant aujourd'hui pour proposer en fait l'adoption du Web3 ?» Parce que, je me répète peut-être, mais moi je pense réellement, et je ne suis pas le seul d'ailleurs, à identifier le gaming avec d'autres marchés évidemment, mais comme étant les piliers en fait justement de cette adoption. Alors évidemment que si on continue à utiliser des termes compliqués ou si le joueur est obligé d'avoir un wallet, se connecter, signer sur MetaMask, je ne sais pas quoi à chaque fois qu'il doit faire une transaction, les barrières à l'entrée tech et autres sont trop importantes pour cette adoption. Mais de plus en plus, il y a des projets d'infrastructures qui se mettent en place pour faciliter justement, pour enlever ces barrières à l'entrée et faciliter cette adoption. Mais pour cette adoption, il y a un sujet principal qui va être, et c'est ça que tu as mentionné, c'est que si c'est un jeu ou une expérience, quelle qu'elle soit, gamifiée, qui a pour seul objectif, entre guillemets, de tu passes 10 heures dessus, mais tu vas gagner 100 € ou 100 $ parce que tu as été actif et tu as fait ci, ça, ça. Mais que l'expérience, elle n'est pas ludique. Et en fait, tu es juste en train de grinder juste pour récupérer ta petite crypto que tu vas pouvoir revendre. Ça va avoir du mal, en fait, à capter l'attention des gamers qui, eux, sont prêts à payer aujourd'hui 180 € ou 100 € pour jouer à un jeu sur console ou autre pendant des heures. Parce que eux, ça ne leur intéresse pas, ce côté financier, la preuve. Ils sont prêts à payer pour pouvoir jouer à une expérience. Donc, si au niveau gaming... C'est pour ça d'ailleurs qu'on a vu un switch qui est arrivé en termes, au niveau de l'appellation de ces jeux-là. On est passé du play to earn au play and earn. Alors tu vas me dire, c'est presque une erreur de frappe. Enfin, c'est un changement assez minime qui est juste une manière de. Voilà, c'est, on dirait, on peut imaginer ça comme juste du marketing pour enlever cette idée de oh, mais non, c'est pas que pour gagner, c'est aussi amusant, etc. Mais je pense qu'en réalité, l'idée derrière est intéressante dans le sens où partir d'une base de « je veux créer un jeu qui plaît aux utilisateurs et qui va être capable en fait, d'attirer même des gamers, des hard gamers sur console ou PC, et derrière, justement, créer une économie qui aura du sens pour ces joueurs-là selon leur activité. » C'est de cette manière-là en fait, qu'on va pouvoir faire adopter le WebPro. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois.
Ouais, c'est un challenge parce que...
En gros, il faut des serveurs de World of Warcraft avec des gens qui minent les ressources d'un côté, qui les mettent à la hache et les autres gens qui payent pour l'expérience. C'est vers quoi ça sert.
J'ai pas très bien entendu. Excuse-moi, Magic.
Ouais, je parlais des serveurs sur World of Warcraft.
Oui.
Souvent, c'était des gens, justement, des communautés défavorisées dont tu parlais.
Oui.
Qui minaient, tu vois. Donc, il faut faire des jeux comme ça pour des play and earn.
Il n'y a pas de tokenisation, mais oui, c'est vrai.
Et du coup, j'avais une question plutôt d'ordre structurel. Vous êtes combien, du coup, chez Animagic?
Alors, aujourd'hui, dans l'équipe, on est 7. On a donc une petite équipe de développement, d'artistes et de la personne qui nous fait de l'animation et de la communication. Et on est 3 cofondateurs. Un qui a un aspect très financier. Un autre qui est plus sur la partie production et artistique. Et moi qui m'occupe de la stratégie en général et de la commercialisation.
Et il y a une question d'ailleurs... Tu penses que c'est quoi parce que quand tu fais un jeu qui est un jeu vidéo blockchain, oui. T'es un peu pour reprendre un peu le débat que j'ai initié, le chemin que j'ai entrepris quelques minutes plus tôt. C'était un petit peu entre deux mondes en fait. T'es un petit peu dans le monde blockchain, un petit peu dans le monde argent, mm-hmm. Et puis t'es un petit peu aussi dans le monde jeu vidéo. Oui. Est-ce que c'est quoi ta cible en gros? Qui sont les gens qui vont jouer à ce jeu-là? Et en fait, qu'est-ce que tu penses que qu'est-ce que tu penses qui va faire que ton jeu va marcher? Est-ce que c'est parce que les gens vont faire de l'argent ou est-ce que c'est parce que les gens vont avoir du fun? Et si c'est les deux, comment tu fais pour que pour avoir une balance et pour savoir que la balance est atteinte en fait?
Alors, c'est très intéressant. Je vais séparer ta question en deux. D'abord, je vais me concentrer sur la partie cible parce que je pense que c'est aussi ce qui va t'intéresser dans un premier temps pour comprendre la suite. Aujourd'hui, donc, comme je l'ai expliqué, Animagic a proposé une première expérience de jeu qui est live, qui est sur Decentraland, donc qui est très Web3, hein, complètement Web3 même. Cette cible donc, qui est vraiment niche correspond à une communauté à peu près de 30 000 utilisateurs mensuels qui sont là principalement pour le côté incentives, donc qu'est-ce qu'ils vont gagner en étant actifs, mais également là parce que dans Decentraland, il y a cette idée en fait de communauté, de partage, de jouer à plusieurs, de s'amuser et de découvrir un petit peu des créateurs qui vont proposer des choses plus ou moins intéressantes sur la plateforme. Nous, aujourd'hui, voilà, c'est pour ça qu'on s'est concentré sur Decentraland parce que notre objectif principal, c'est d'avoir une première base de joueurs développeurs, c'est comme ça qu'on les appelle. Donc, c'est des joueurs qui sont actifs, engagés et qui nous aident à améliorer l'expérience. D'accord ? Et pour ça, ils sont récompensés, donc il y a l'aspect financier qui existe, mais avec une mise en avant du « Ok, vous êtes récompensés si vous nous aidez à améliorer l'expérience ». Aussi si vous passez du temps dessus et que vous êtes engagé. Mais l'objectif principal, c'est d'améliorer l'expérience. Ensuite, donc ça, c'est notre cible actuelle. Aujourd'hui, on a démarré une deuxième phase de notre projet qui va être justement d'aller attirer un public un peu plus diversifié, toujours intéressé et un public averti sur les questions Web3, donc qui détient un wallet, qui comprend les principes du play and earn et autres. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, voilà, on rentre dans une partie plus intéressante qui va nous permettre de commercialiser un peu ce produit auprès d'autres communautés Web3. Et pourquoi on fait ça? Ça va être pour justement pouvoir lever des fonds, ce qui va nous permettre de proposer une expérience gaming donc dans le même univers avec les feedbacks qu'on aura reçus de nos joueurs développeurs, cette fois-ci à télécharger directement sur smartphone, PC ou autre, avec des termes beaucoup plus simplifiés pour aller chercher un public mainstream. Donc, notre cible, aujourd'hui, elle est très niche au niveau de Decentraland et de la communauté Web3. Petit à petit, on va s'élargir pour aller chercher justement le comment dire, mais c'est vraiment le terme, mais le bon pour accord, vraiment la validation de la communauté gaming qui, elle, qu'il y ait un aspect financier ou pas, elle s'en fout un petit peu. C'est ça qu'on va aller chercher dans un deuxième temps pour justement confirmer que notre travail a porté ses fruits. Et ensuite, on va aller directement chercher le public mainstream. Donc, n'importe qui aujourd'hui, en termes de gamers, si on parle des casual gamers qui jouent quelques heures par semaine sur leur téléphone ou les autres qui jouent des heures entières sur leur PC, ça représente près de 5 milliards d'individus. Donc, il y a quand même assez de marge.
Ouais.
Donc, ça, c'est pour la partie cible.
Qu'est-ce qui va faire que...
Pardon. Oui, je t'écoute.
Mais oui. Ben vas-y, je te laisse dérouler le truc. Peut-être que tu avais envie de compléter. Parce que...
Non, je t'écoute, il n'y a pas de souci. Mais là, c'était parce que je me concentrais sur la partie cible pour répondre à la première partie de ta question, mais je t'écoute.
Ben en fait, c'est ça. Alors, il y a, comment il s'appelle il y a Sherkut qui veut parler, mais avant ça, je veux rebondir sur ce que tu as dit, parce qu'en fait, ça répond à moitié à ma question. Alors, c'est pour ça que je ne sais pas ce que tu allais dire après, mais en gros, je me demandais qu'est-ce qui, d'après toi, va faire que le mainstream en fait, va adopter ton jeu, en fait, finalement. Parce que je vois l'idée, hein, je vois l'idée de faire des tokenomics, etc., pour que ce soit intéressant pour les mecs qui sont dans le Web3. Mm-hmm. Mais après, il faut que le jeu soit bien, tu vois, pour que ce soit quelque chose qui soit mainstream. Si le jeu se limite à des tokenomics, on retombe dans les travers du
play to earn classique, bien sûr.
Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qui fait que c'est pas juste un play to earn?
Je suis totalement d'accord avec toi. C'est, je pense, pour ça que les premières questions étaient tournées là-dessus. C'était vraiment sur le côté. Nous, la tokenomics, comme tu l'as compris, alors elle n'est pas sur les ressources, elle n'est pas sur tous nos éléments. En fait, elle est vraiment, les seuls assets tokenisés sont nos équipements. Donc, pour amener cette incentive au niveau des joueurs, mais notre pierre angulaire est sur ce sur quoi on se concentre de manière très assidue et productive, c'est la production du jeu et son amélioration. Et en fait, la récompense, elle est donnée aux joueurs qui nous aident à améliorer l'expérience avec l'objectif justement d'avoir un jeu qui plaît, comme tu l'as expliqué, au plus grand nombre, quel que soit l'incentive, quel que soit l'aspect financier derrière. C'est d'ailleurs pour ça qu'en fait, toutes nos fonctionnalités sont présentées séparément à un petit groupe de nos utilisateurs qui sont les alpha testeurs pour qu'ils nous aident justement à l'améliorer de façon à ce que ça va plaire au plus grand nombre. On travaille également sur en fait plein de mini gameplay internes à notre expérience qui vont en fait à chaque fois amener une touche un peu différente pour que le joueur bah, justement se sente c'est de la diversification et le fait que bah, selon par exemple ses préférences, il va pouvoir choisir un métier dans lequel le gameplay lui plaît plus. Aujourd'hui, il y a deux métiers qui sont sortis, il y en a un troisième qui va sortir le mois prochain et il y en a encore deux autres qui sont en cours de production. Ça fait cinq métiers différents. Chaque métier propose un gameplay différent. Et en fait, les joueurs vont pouvoir choisir leur métier selon le gameplay qu'ils préfèrent. Après, en fonction de la partie... ça, c'est vraiment sur le côté gaming et qu'est-ce que le joueur va préférer réaliser. Et nous, on se concentre là-dessus. Je ne sais pas si je réponds à ta question ou si je touche encore à côté.
Tu réponds pas de ouf à la question, j'avais dit.
D'accord.
Mais on peut revenir. Bah, oui, parce qu'en fait, j'ai pas envie que tu prennes mal mes questions, mais genre,
je t'écoute. Avec okay, attention.
Bah, en gros, la question, c'est genre, qu'est-ce que. Comment dire? C'est quoi les qualités de ton jeu, en fait, finalement? Qu'est-ce que. S'il y a quelqu'un qui a jamais entendu parler de la blockchain, qui s'en fout de la blockchain, qu'est-ce que tu vas lui dire pour lui vendre ton jeu, finalement, sans rentrer dans le travers du vendeur de tapis, tu vois? Genre, c'est quoi, en fait, les qualités du jeu qui, si t'enlèves le côté blockchain, qu'est-ce qui fait que c'est un jeu unique, éventuellement, tu vois?
J'ai compris un peu de méta question, je vais pouvoir t'y répondre, enfin, j'espère. Aujourd'hui, nous, ce qu'on a voulu créer, du coup, c'est un MMORPG. Type Medieval Fantasy, donc un petit peu inspiré de World of Warcraft. On a créé notre propre univers, on a créé notre propre lore, on fait nos propres voix off. Chaque personnage a son histoire, a son background. Donc le joueur est vraiment, en fait, rentre dans un univers et accompagné tout le long pour que justement il se sente imprégné de cet univers et qu'il a envie de continuer et que ça lui plaise et qu'il soit capable justement de découvrir de plein de nouvelles choses à tout instant. Donc, en fait, il n'est jamais blasé par le fait que il réalise tout le temps les mêmes opérations ou autres. D'accord ? Dans cette expérience, donc pareil, voilà, il va y avoir des quêtes, du PVE, il va y avoir des donjons, il va y avoir la possibilité de jouer à plusieurs, puisqu'il y a de la compétition, il y a de la stratégie. Voilà, ça reste en fait une expérience de jeu en dehors de la partie tokenomics et de la partie blockchain. Notre objectif, c'est de proposer un jeu qui plaît. Enfin, c'est pour ça que depuis tout à l'heure, je me répète un petit peu sur ça. Mais pour répondre à ta question, qu'est-ce qui rend notre jeu unique aujourd'hui? C'est par l'univers qu'on a créé. On a tout fait de notre côté, donc en indépendant. Donc, tous les modèles 3D, tous les environnements, tous les personnages ont été créés par nos soins avec justement cette idée de créer leur histoire, créer leur background, créer leur voix off pour justement que le joueur soit imprégné de cet univers et qu'il se plaise, en tout cas si c'est ce type de jeu qui favorise, bien sûr. Je sais bien qu'il y a certains joueurs qui ne vont pas être intéressés par ce type de jeu.
Moi, je connais pas Decentraland. Du coup, ça utilise le moteur de Decentraland. Je connais pas bien non plus. Comment est-ce que tu pourrais décrire les graphismes avec ça quand tu parles des quêtes et tout? Tu vois, genre, ça représente quoi? Moi, j'ai pu jouer à World of Warcraft, tu vois, donc c'est un peu l'expérience que tu connais là-dessus. Genre, comment est-ce que tu pourrais le décrire vis-à-vis de ça un peu? C'est un univers 3D, non, c'est ça? T'as pas mentionné
Alors oui, complètement. Alors je vais te parler en deux temps. Déjà, Decentraland, et dans un deuxième temps, la question qui était plus sur la partie graphisme, quête et autres. Donc Decentraland, c'est une plateforme type métaverse qui a été créée il y a quelques années qui est une DAO, donc qui a cette idée d'organisation de communauté avec la possibilité de voter et autres pour améliorer les différentes expériences. Et donc, chaque land est un NFT. Donc, nous, tu peux être propriétaire d'un des terrains et créer une expérience sur ce terrain comme tu la préfères. Donc, il y a des musées, il y a des banques, il y a des un peu à la sandbox, en fait. D'accord ? Et dans cet univers, dans cette plateforme, en fait, elle est très centrée gaming. Donc, il y a énormément de mini-expériences de jeu. La plupart des expériences sont assez courte dans le sens où en fait c'est une petite expérience où tu vas pouvoir justement tester un gameplay pour découvrir une expérience. Mais nous, on a essayé de pousser le truc assez loin dans le sens où on a été au maximum de la possibilité en termes de graphisme. On a pris un terrain qui était assez grand et on a créé un univers en fait grâce à l'extension de notre terrain dans le sens où en fait notre terrain qui représente plusieurs milliers de mètres carrés, on l'a superposé. Donc, en fait, tu peux passer d'une scène à une autre et en fait, tu restes sur le même terrain. C'est juste que toi, tu vois autre chose que le premier joueur. Donc, ça fait qu'aujourd'hui, on propose, il y a déjà en ligne plus de 15 environnements différents, maps différentes. Et tu peux passer de l'une à l'autre, en fait, directement en jouant et en parlant à un NPC qui va te permettre d'aller donc, justement à une autre zone et d'effectuer de nouvelles tâches.
Ok, d'accord. Donc le jeu, en fait, il est sur Decentraland.
Aujourd'hui, le jeu est sur Decentraland. C'est la première expérience de Animagic. Oui, et il est déjà live.
Ok.
Mais Decentraland représente pour nous, en fait, un moyen de présenter notre univers, notre expérience, récupérer justement cette base communautaire qui va nous aider à améliorer cette expérience pour pouvoir proposer la même expérience, le même univers dans différentes plateformes. Et l'objectif, c'est de pouvoir proposer cette expérience directement à télécharger sur smartphone ou autre pour les joueurs un peu plus mainstream.
Si je peux
parler, dans un second temps.
Une petite suggestion, parce que moi, je connais un petit peu EVE Online, ça pourrait un petit peu vous aider. Je vous suggère grandement de vous intéresser au système de contrat entre les joueurs. Ça apporte une partie en plus de PVP. Sur les contrats, tu peux faire par exemple, tu peux faire un contrat sur un objet, tu vois, tu peux donner un objet, enfin, tu peux vendre un certain prix fixé à l'avance à un autre joueur, tu peux faire un contrat de transport avec un système de garantie, tu peux faire un contrat avec un système d'enchères. C'est un aspect vraiment, enfin, il y a une grosse partie du commerce PVP qui passe par les contrats. Et vous pouvez. Vous pouvez un petit peu regarder comment ça marche et puis.
Et c'est sur excuse-moi de te poser la question, mais c'est sur de l'asset tokenisé ou pas forcément?
Ah, pas du tout, c'est sur EVE Online, c'est sur du jeu classique, entre guillemets.
Classique, enfin, d'accord.
Le MMO classique.
D'accord. Alors, nous, pour échanger un petit peu, débattre avec toi sur ce sujet-là, ce qui est prévu notamment pour les prochaines updates, en fait, ça va être la mise en place d'une trade house, en fait, avec la possibilité pour les joueurs, comme tu l'as expliqué, de proposer leurs matériaux donc, qui ne sont pas tokenisés. Donc, comme on disait tout à l'heure, Anthony, les ressources et les différents objets que tu peux obtenir in-game, tu vas pouvoir les proposer sur cette trade house. Le joueur fixera lui-même son prix et les autres joueurs décideront si oui ou non ils veulent les acheter ou s'ils préfèrent les acheter à quelqu'un d'autre ou s'ils préfèrent les farmer eux-mêmes.
Ouais, ça serait quoi les trade house, c'est quoi? Ça marcherait comme un centre commercial avec un carnet d'ordre?
Oui, un petit peu, dans le sens où en fait dans la taverne, qui est l'espace principal du village, le joueur va être capable de mettre ses objets en consigne, en vente, pour les autres joueurs. Et les autres joueurs pourront venir sur cette trade house, voir les différentes offres proposées, ils pourront eux-mêmes faire une offre en disant « moi je veux bien te l'acheter, mais à tel prix ». Et après, l'autre joueur reviendra plus tard pour décider si oui ou non il veut lui vendre. Vraiment sur ce côté-là, contrat entre joueurs, comme tu l'expliquais.
Ok.
Et oui, je suis d'accord, c'est très intéressant pour un sujet comme celui-là. Pardon, je t'écoute.
Et en fait, il y a Charcut qui veut dire un truc. Je comprends pas, parce que Charcut, je clique sur son pseudo et puis c'est marqué Mordal. Je comprends rien pourquoi il y a un pseudo différent quand je clique sur le profil ou pas, mais en tout cas, Charcut Mordal, si jamais tu veux dire un truc, t'as demandé la parole depuis tout à l'heure.
Bonsoir tout le monde, merci Chad.
Bonsoir.
Non, je comprends pas. Bonsoir, oui. Je comprends pas non plus qu'il soit écrit Mordal. Peut-être c'est un ancien pseudo, mais bon, c'est pas grave. Je suis monté dans ton space parce que j'étais intéressé par le titre. J'avais une question justement sur, sur cet écosystème, enfin ce monde un peu qui m'est un peu étranger, on va dire, mais j'espère qu'elle soit intéressante et que vous puissiez amener plus de lumière à ma demande, à ma question. Et donc, du coup, ma question, c'était vous qui êtes dans le jeu, enfin, vous dans le gaming, vous avez bien vu l'investissement, les prochains investissements qui seront amenés vers le gaming et l'intelligence artificielle. Je pense que vous êtes averti des investissements de Nvidia également sur certaines institutions, certaines institutions, et je voulais savoir ce que vous en pensiez de ce basculement en fait qui va amener, enfin de ce que j'en sais, hein, du peu que j'en sais en tout cas, à amener de la data ainsi que de la probabilité et la puissance de calcul qui permettrait justement, grâce à ça, de décentraliser et d'éviter, tu vois, toutes les... en fait, le projet en question, parce que j'ai vu ça un peu partout, c'est que l'objectif est carrément de décentraliser les data centers, tu vois, et profiter du joueur, profiter du client, si je peux parler ainsi, et utiliser justement son ordi, son appareil, son jeu pour pouvoir lui faire le rémunérer, mais aussi parce qu'on sait très bien que les joueurs aujourd'hui, il y a beaucoup de joueurs qui n'ont pas besoin d'être rémunérés, ils sont prêts à payer, tu vois. Mais là, en l'occurrence, si on leur propose derrière d'être rémunérés grâce au fait qu'ils minent un peu, enfin quand je ne sais pas si tu me comprends quand je te dis ça, mais ma question est donc, que penses-tu de ce revirement, enfin de ce nouveau concept qui arrive prochainement, et comment ton entreprise va s'y adapter ?
C'est quoi le nouveau concept dont tu fais
Le concept de décentraliser les data centers et utiliser les appareils de chacun pour pouvoir... c'est Nvidia qui lance le projet, tu vois. Enfin, quand je dis Nvidia, c'est pas Nvidia, mais c'est des Ethereum par exemple qui proposera bientôt de pouvoir acheter des nœuds. Et il y a beaucoup d'entreprises dans le gaming qui sont intéressées parce que ça leur permettrait, grâce à leurs joueurs, de jouer et en même temps d'utiliser leurs appareils comme étant une.
Donc en fait, que les joueurs
ils mineraient sans forcément avoir la capacité des ordinateurs des mineurs, tu vois, juste avec leur appareil, juste une structure qui leur permet, un appareil qui permet d'échanger l'information, de faire circuler l'information, circuler les datas, et puis voilà quoi. Et c'est le projet, parce que c'est ce que j'ai lu dernièrement. Je sais pas si vous avez vu le projet des tirs ou la structure Nvidia qui investit sur différentes entreprises comme telles, tu vois, et ça amène à comprendre que le gaming plus l'intelligence artificielle et plus l'intelligence, plus la force de calcul d'NVIDIA, ça pourrait être un truc, un mastodonte, tu vois, un nouvel...
C'est quoi le truc
que... Moi, je pense qu'il y a trop de buzzwords dans l'addition. Ça marche pas.
Bon, il y a trop d'eux. Je vois à quoi il fait référence. Tu fais référence en fait à un système où, un système un peu plus décentralisé comme Flux. En fait, ce qui se passe, c'est que les utilisateurs, les entreprises ou les particuliers prêtent une partie de leur espace de stockage, une partie de leur réseau et leur puissance de calcul et sont rémunérés par un token.
Alors, voilà, c'est très compliqué. Il y a le gaming qui entre en jeu aussi, tu vois.
Ça il faudrait avoir des compétences très particulières. Sur du réseau, sur du DevOps, sur des trucs très compliqués. Et ça, j'ai l'impression que ça sort un peu... Enfin, c'est un peu lié quand même, mais ça sort un peu du côté purement gaming.
Ouais.
Enfin, pour faire une petite équipe de 7, c'est très compliqué à mettre en place, quoi.
Aujourd'hui, c'est pas faisable avec les équipes, mais je comprends l'intérêt également. Et ces technologies dont tu parles, et ces nouvelles manières de faire justement pour décentraliser l'information auprès des utilisateurs, en fait ça revient un petit peu déjà par la création de la blockchain et par cette idée de décentraliser les différents éléments pour justement mettre en avant les communautés, et ça a sa place dans le gaming, mais je pense pas que ça soit leur première cible, le gaming. En tout cas, peut-être que je me trompe, mais je suis pas certain qu'ils...
Alors, ce que je vous invite à voir, du coup, c'est, oui, là, c'est le tweet de les Twitter, le tweet de Tyr, justement, qui est une société qui a été qui est justement dans le domaine et qui va être lancée par Nvidia, justement. Vous connaissez tous le mastodonte Nvidia, donc
bien sûr.
Quand une entreprise comme ça investit sur une entreprise de ce genre, ça laisse à croire que c'est possible, tu vois. Et justement, il parlait de cette force de calcul que le gaming n'avait pas, tu vois. Et c'est en l'occurrence là où ça peut changer la donne pour les... Alors, je te donne ma vision des choses. Je ne suis pas quelqu'un du domaine, hein. Mais, avec ce que j'ai pu analyser, je trouve le projet intéressant. Et c'est pour ça que je te posais la question, parce que comme vous travaillez dans le gaming, vous créez des jeux et que vous créez des univers et tout ça, et ça, à un moment donné, pour les développer, il va falloir plus de force de calcul, comme on disait tout à l'heure. Mm-hmm. Et je trouvais ça intéressant de vous poser la question, parce que je pense que vous êtes, dans tous les chats que j'ai vus aujourd'hui, dans tous les spaces que j'ai vus aujourd'hui, je pense que vous êtes les seuls à pouvoir me répondre. Sinon, ça part de notre
sujet. Ouais, mais en même temps, c'est compliqué, parce que honnêtement, ce que tu dis depuis tout à l'heure, c'est hyper vague et hyper... J'ai toujours pas compris un seul mot de ce que tu as dit. Et on essaye de déchiffrer un peu, de faire une synthèse
Ouais, je comprends, mais c'est normal quand on est moins...
Truc, mais en fait, ça n'a aucun sens. Je suis désolé, mais je suis désolé de te le dire comme ça, mais je sais pas s'il y a quelqu'un qui a compris en fait le sens de ce que tu viens de dire, mais j'arrive pas à faire une phrase normale avec ce que tu viens de dire. Je suis désolé, mais pour moi, vrai, écoute, c'est quoi la synthèse de ce que tu viens de dire?
Alors, je vais essayer d'être factuel du coup. Nvidia investit dans le gaming grâce à sa décentralisation. Grâce à l'investissement qu'il mettra sur la décentralisation et en utilisant les appareils de jeu des gamers pour décentraliser pour éviter de passer par les data centers et donc passer par non plus passer par les milliardaires mais passer par les espaces de chaque individu non les data centers, excuse-moi, c'est comme ça que je devais le dire. Donc voilà, et donc dans le jeu, ça a une importance parce que du coup, ça va permettre de développer les jeux et amener une force parce que du coup, les données clients seront plus facilement identifiables. Non, parce que
je suis pas tout à fait d'accord avec ça. Tu vois, en fait, ce dont tu parles, c'est déjà arrivé une fois avec les downloaders de Blizzard, par exemple. Au début, tu avais juste un téléchargement qui était extrêmement lent. Puis, ça fait avec d'autres downloaders, tu avais du simple HTTP, c'était lent. Ils ont commencé à utiliser un protocole BitTorrent. Donc, en gros, ils ont tout simplement utilisé l'espace de stockage de chaque joueur qui téléchargeait un jeu pour pouvoir le partager. Mais eux, ça leur a juste réduit des coûts structurels et des coûts qui sont genre pas très grands, mais c'est juste que ça permettait d'améliorer l'expérience utilisateur dans le sens où ça se téléchargeait plus rapidement, tu vois. Donc, je pense que la décentralisation, ça va plutôt t'apporter ce genre de bénéfice-là d'un point de vue utilisateur qu'une grande révolution économique, je pense. En tout cas, c'est mon avis, tu vois.
Petite suggestion pour réorienter un peu plus sur la partie économique. Je t'ai mis un lien sur le chat. Alors ça, c'est très important. C'est la newsletter économique de Eve Online. C'est tous les mois, ils font, l'éditeur fait un rapport sur les ressources minées, les vaisseaux craftés, les régions ont plus de volume. C'est fascinant. Il y a une partie vraiment économique. Je crois que c'est le seul jeu qui embauche à peu près 5 ou 6 économistes à plein temps. Et vraiment, c'est une partie qui décuple le nombre de joueurs. C'est incroyable.
C'est vrai, c'est super intéressant. Je suis en train de regarder. D'avoir autant d'informations, c'est quand même c'est rare et c'est super intéressant qu'ils aient été aussi loin dans le détail.
Si tu peux te rapprocher d'économistes professionnels, ça coûte un petit peu cher, mais semi-pro, ça peut être vraiment une vraie plus-value pour ton jeu, pour les MMO en particulier. Mais Eve Online, ils ont poussé le niveau de détail très très loin.
Ouais, je suis en train de regarder, ça va très loin. Mais je suis totalement d'accord avec toi que sur des jeux de ce type-là, en fait, qui nécessitent justement pas mal d'interactions entre les joueurs et donc de. Voilà, on a parlé des trade-outs avec la possibilité des contrats en PVP, en player, entre players. On a parlé des ressources, on a parlé des équipements et autres, les assets qui sont tokenisés et les autres. Je pense que la partie économie et avoir des informations et d'avoir de la transparence là-dessus, c'est vraiment un des éléments les plus importants. Donc oui, je rejoins ton point de vue.
Alors, j'ai remarqué un truc. Normalement, hier, on aurait dû faire un tirage au sort pour Satoshi, et je voulais le faire aujourd'hui, mais finalement, je ne l'ai pas lancé aujourd'hui, mais je le ferai demain. Voilà, donc c'était pour ceux qui, si jamais il y en a parmi vous qui se demandaient, ça va être demain, on va faire ça normal, parce que là, je me suis dit, je ne vais pas le lancer là, mais c'est très bien comme ça. Du coup, j'ai une petite question par rapport à, comment dire, par rapport à le truc dont on parlait tout à l'heure, qui oui. est justement. L'espèce de relation qu'il y a entre d'un côté l'économie blockchain et de l'autre côté l'économie traditionnelle mm-hmm. du jeu vidéo. Comment tu parce que c'est en fait moi je suis toujours resté un peu sur le truc dont tu as parlé tout à l'heure qui était que en gros tu vas d'abord essayer de appeal au crypto investor quelque part et ensuite essayer de que ce soit que le jeu soit plus intéressant pour le mainstream. Comment tu peux faire une chose pareille si par exemple le jeu n'est pas en soi n'est pas déjà intéressant pour le mainstream dès le départ, comment tu fais pour quelque part le convertir pour qu'il devienne intéressant pour le mainstream après, tu vois ce que je veux dire? Si les ingrédients d'un jeu qui est attractif pour le mainstream n'est pas là dès le départ, comment tu fais pour qu'il soit là à un moment donné pour les insuffler au jeu pour que ça devienne un jeu intéressant qui devient intéressant sans même même s'il n'y a pas les facteurs économiques blockchain enfin, ouais.
Ouais. En fait ce qui se passe c'est que je considère pas que l'expérience Animagic aujourd'hui elle est pas intéressante niveau mainstream, c'est juste que il y a des barrières à l'entrée. Déjà dans un premier temps comme je l'ai expliqué, l'expérience aujourd'hui elle est sur des centralandes. Le commun des gamers ne va pas forcément être apte à rentrer dans des centralandes, trouver l'expérience, participer, comprendre comprendre l'économie des équipements, parce que même s'il n'y a pas d'aspect financier derrière, le joueur doit quand même avoir pour objectif de récupérer ses équipements pour améliorer son expérience et donc devenir plus fort. Donc, en fait, le problème n'est pas de rendre l'expérience mainstream, mais en fait, la question va être plus de enlever ces barrières à l'entrée et ouvrir le jeu au mainstream. Pourquoi je passe d'abord par une première cible qui est assez niche avec justement donc, cette cible Web3, crypto adopteurs et autres, c'est parce que ces gens-là donc, vont jouer, vont être intéressés par le produit, oui, sur un aspect financier, mais vu que c'est sur une plateforme très gaming comme Decentraland, il y a ce côté, se créer cette base qui, avec pour objectif d'améliorer l'expérience. Et donc, c'est pour ça, en fait, qu'on fait ça de cette manière-là, parce qu'on se dit que en proposant des incentives à ces gens-là qui sont des gamers dans l'âme, on va pouvoir améliorer cette expérience, on va pouvoir monter petit à petit pour proposer une expérience qui a du sens pour tout le monde. Et à ce moment-là, on pourra enlever toutes les barrières à l'entrée pour offrir cette expérience au mainstream. Je ne vais pas changer l'expérience, en fait. Je vais changer la manière dont les joueurs ont accès à l'expérience.
Ok. Ok, je vois. Et tout à l'heure aussi, pareil, je te demandais qu'est-ce qui faisait que le jeu, en dehors de justement des tokenomics, était intéressant, attractif, par exemple pour le mainstream ouais. ou pour les gens en général. J'ai pas l'impression que tu m'as dit c'est quoi les. J'ai pas l'impression que t'as vraiment répondu à cette question-là. Genre, qu'est-ce qui fait en gros? Parce que j'essaie de. En fait, ce que j'essaie de comprendre, c'est comment ouais. tu. C'est quoi les caractéristiques en fait d'un jeu qui en tout cas bon, c'est pas forcément toujours les mêmes caractéristiques pour tous les jeux, mais c'est quoi, ouais, par exemple dans ton cas à toi, mais en général comment peut-être tu vois comment le jeu devrait être en tout cas pour qu'il soit intéressant pour un joueur qui n'est pas intéressé par le côté économique des choses, donc mm-hmm. d'une part. Et c'est quoi aussi, donc, du coup, les caractéristiques qui font que, bah, économiquement, ça va être intéressant pour un joueur blockchain? Et en gros, comment tu fais l'alliance de ces deux choses-là? C'est quoi concrètement, en fait, les caractéristiques, tu vois? C'est pas parce que tu me répondais, tu me disais, bah, ouais, mais on a bien aimé faire le jeu, etc. Bah, ouais, ok. Mais si tu veux, c'est pas ça vraiment le truc qui va faire que ça va intéresser les gens, tu vois ce que je veux dire?
Yes, totalement, totalement. Mais en fait, c'est pas qu'on a bien aimé faire le jeu, c'est que ce qui est intéressant, c'est de construire ce jeu avec les joueurs. Et donc, justement, d'avoir leur retour pour améliorer le jeu. Et c'est ça, en fait, l'intérêt principal. Maintenant, pour répondre à ta question qui est des caractéristiques du jeu, j'ai vraiment cette sensation que tu veux vraiment séparer la partie économie financière et la partie gaming. Donc, c'est ce que je vais faire. C'est que, alors oui, il y a le côté économie, donc avec la possibilité de gagner des assets que tu vas pouvoir revendre, etc., etc. On en a déjà parlé, c'est la partie blockchain dans le gaming et l'intérêt de la blockchain dans le gaming. Ça, c'est un sujet. Et il y a le deuxième côté qui est qu'en fait, nous, en fait, ce qu'on essaye de proposer, c'est une expérience de jeu qui est entre le free-to-play assez classique et le MMORPG. Les MMORPG, aujourd'hui, c'est des types de jeux qui intéressent une très, très large communauté par en fait la possibilité de jouer en communauté, de jouer avec ses amis, de jouer dans un monde ouvert, dans différents univers. Donc voilà, on a parlé pendant ce space d'un jeu avec un aspect de vaisseau spatial et autres. Nous, c'est plus sur le côté médiéval, fantasy, avec de la magie, avec des sorts, avec des donjons, des quêtes, enfin, ça reste une expérience de jeu en elle-même, hors toute la partie économie, qui, par son sens, en fait, va intéresser une communauté qui va être déjà très importante. Et en plus de ça, ce qu'on essaye en fait, de proposer petit à petit, c'est de lier cette expérience de jeu assez classique de MMORPG à une expérience assez plus mainstream de free-to-play, avec cette idée de bah, tu télécharges le jeu, on t'offre un équipement, on te montre comment farmer, tu vas farmer. Grâce à ça, tu vas pouvoir échanger avec des joueurs et donc tu vas pouvoir communiquer avec du monde. On revient sur le parti MMORPG où en fait, bah, il y a cette idée de jouer en multijoueur. Tu ne peux pas jouer seul, tu as besoin des autres joueurs. Il y a certaines actions, par exemple certains donjons, certains boss qui ne peuvent pas être vaincus seuls. Il faut aller par équipe. Donc du coup, tu dois retrouver tes amis et ensemble aller vaincre ce personnage. C'est assez dur de réaliser cette action. Donc, tu vas sûrement devoir le faire 50 fois avant de réussir. Donc, il y a ce côté gaming très classique en dehors de toute la partie économie.
Mmh. Je ne sais
pas si, encore une fois, je vise à côté parce que ça fait plusieurs fois que j'ai
Par exemple, si je te demande qu'est-ce qui fait la différence entre World of Warcraft et... je sais pas si t'as connu. Bah, faudrait que je prenne un autre jeu qui était là avant, par exemple, j'en sais rien. Ashron's Call. Mais j'ai très peu joué à Ashron's Call. T'as joué à ce jeu-là ?
Non, ouais. Malheureusement, non, j'ai pas la référence. World of Warcraft, oui, mais Ashron's Call, non.
Excuse-moi. Mais genre, qu'est-ce que tu sais, par exemple, ce que tu pourrais dire, ce qu'a apporté World of Warcraft au monde du jeu vidéo, par exemple ?
Alors bah il y a le côté tu parles sur le côté économique ou sur le côté gaming?
Parce que bah, en général tu vois
il y a cette question de subscription avec les nouvelles extensions, avec le fait de devoir racheter mensuellement ou annuellement des abonnements pour pouvoir continuer à jouer, pour pouvoir continuer à apprécier l'expérience. Et sur le côté gaming, bah il y a ce côté multiplayer, il y a ce côté serveur, il y a ce côté justement et cet univers complet en fait, et c'est ça qui a attiré les joueurs. Pour moi, c'est ça qui a été qui a rendu World of Warcraft ce que c'est aujourd'hui.
Ouais, parce qu'en fait, en gros, j'essaie vraiment pas de te piéger ou quoi, ou de te mener la vie dure juste pour te mener la vie dure ou quoi, mais c'est juste que, en gros, tu vois, genre, moi je connais pas du tout Animagic, hein, en vrai, yes. Et juste on a parlé un peu avant l'émission de ça, puis je trouvais ça intéressant d'avoir de parler de ce sujet-là. Et justement, en fait, je trouve ça intéressant d'en parler parce que quand, si tu veux, moi quand on me parle d'un jeu, il faut que ça me donne envie d'y jouer. Je me dis genre, ah ouais, ça va être un truc c'est différent. Et en gros, quand toi tu parles de Animagique par exemple, tu dis bah ça va être un jeu avec des sorts et des quêtes. Bon bah pour moi, il y a un million de jeux comme ça en fait. Et je me dis bon bah voilà, en fait c'est un jeu. Il y a rien de spécial en fait. Tu vois ce que je veux dire, rien de spécial. Il y a juste des NFT collés sur un jeu, un truc avec des quêtes et des sorts. Et en fait, voilà. C'est tout.
Bah, en quelques mots pour que tu réalises un petit peu l'objectif qu'on s'était visé, qu'on s'est donné, et pas vraiment l'objectif, mais on va dire vraiment le chemin qu'on a voulu se tracer, c'est que notre objectif long terme était de créer de recréer un univers type World of Warcraft, donc de recréer un World of Warcraft mais dans notre propre univers, avec notre lore et avec notre patte artistique et autres, mais en associant cette idée de token. Ce qu'on s'est dit en fait, c'est que un World of Warcraft avec une économie tokenisée serait quelque chose de passionnant pour l'écosystème gaming, d'accord. Et ce qu'on a voulu faire en gros, c'est reproduire cette passion qui peut exister aujourd'hui dans un MMORPG de ce type-là, en associant l'économie blockchain et en amenant en fait notre patte artistique, graphique et notre univers. Que ça soit au niveau des références in-game, que ça soit au niveau, donc justement, comme je l'ai expliqué, donc la voix des différents personnages qu'on prend le temps de faire pour chaque personnage, parce qu'on veut que le joueur se sente réellement dans notre univers et qu'il se laisse porter par cette expérience.
Ok, ouais. Et d'ailleurs, votre patte, ça vient d'où graphique dont tu parles, c'est un truc spécifique.
Oui, alors tout est en hand-painted. C'est fait par du coup mon cofondateur Pablo, qui lui vient d'une école gaming, donc il a été modélisateur 3D. C'est quelqu'un qui a été passionné par World of Warcraft depuis son plus jeune âge, et c'était en fait sa passion et son rêve en réalité. De produire un jeu, de créer son propre univers avec ses idées artistiques. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous, on travaille dessus depuis 2 ans dessus.
Ok, d'accord. Et comment ça fonctionne, la genèse d'un projet comme ça? Est-ce que ça part de quoi, en fait? C'est quoi la première idée qui est venue? Et ensuite, qu'est-ce qui s'est greffé autour de cette idée?
Alors, la première idée, donc, c'était World of Warcraft tokenisé. Ensuite, il y a eu en fait, toute la production. On a pris une bonne année. En fait, on a commencé à travailler fin 2021, début 2022. Donc, on a pris une bonne année en fait, pour produire les différents assets, les différents éléments de l'environnement, des équipements, des armures, des personnages, etc. Ensuite, on a pris du temps sur la partie développement et la partie économie pour que ça ait du sens pour les joueurs. On a proposé une première expérience en 2023 pour que les joueurs, justement, testent, donnent leur avis et nous aident à améliorer. Et on a, grâce à ça, on a pu sortir, du coup, en début 2024, on a pu release le jeu sur Decentraland avec plusieurs expériences, plusieurs zones, plusieurs personnages, plusieurs métiers, plusieurs fonctionnalités et autres, tout en amenant du coup cette patte graphique et cet univers et l'aspect tokenisation. Et c'est de cette manière-là en fait qu'aujourd'hui on a avancé, et ça va nous permettre de pouvoir continuer en fait à amener de la nouveauté et à améliorer notre expérience sur les prochains mois, tout en mettant un petit peu en commençant à commercialiser ça grâce donc à la communication, au marketing et les prochaines annonces qui vont sortir sur les tokens, les partenariats et d'autres choses de ce type-là.
Et est-ce que tu suis l'actualité un peu des autres, c'est ce qui se passe autour des autres jeux blockchain et tout, les trucs qui,
qui traîne un peu.
Ouais, bien sûr. Moi, j'ai un de mes amis qui est également dans le marché, qui a un projet français qui a assez bien fonctionné. D'ailleurs, ils ont release leur bêta très récemment. Il s'appelle Otia. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. C'est un projet français gaming.
Je ne connais pas du tout.
D'accord. C'est un projet qui est très intéressant, qui est aussi sur cette idée de monde ouvert, qui ont créé leur propre univers avec cet aspect tokenisation. C'est assez bien foutu ce qu'ils ont fait. Et j'ai pu Oxia. Essayer la bêta. Et... Ouais, Otia, OITYA. C'est un projet gaming français qui a release très récemment sa bêta pour une petite partie de sa communauté. Il y a également le plus gros projet français gaming, en tout cas les plus gros projets français gaming. Pour moi, ça va être, on peut identifier Sorare et CTA, Cross the Edges. Alors, c'est des jeux qui sont un peu moins du même type que le mien, mais qui sont plus sur des jeux en fait de cartes. Avec cette donc Sorare, ça va être des cartes qui représentent. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mon petit gazon. J'aime bien utiliser cette référence parce que c'est très clair pour présenter Sorare. Vous devez connaître Sorare sûrement.
Ouais, Sorare, c'est sorti un petit moment, ouais. Mais j'ai pas digué.
T'as pas suivi?
Je me suis pas du tout intéressé. Ouais.
Ah, Sorare, c'est super intéressant. En fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'il y a des cartes qui représentent des joueurs de foot ou d'autres sports. D'accord? Et ces cartes, c'est des tokens, donc ils sont il y a une supply limitée, donc ils ont une rareté, donc ils ont un coût, donc ils peuvent. Donc les joueurs ont la propriété dessus, il y a de la transparence, etc. etc. Et derrière, il y a un mini-jeu en fait, où tu vas pouvoir entre guillemets, faire des matchs contre tes amis ou contre d'autres personnes en utilisant les cartes que tu possèdes. C'est quelque chose qui a cartonné et qui aujourd'hui s'exporte auprès d'autres sports, notamment la NBA et autres sports de ce type-là. Et tu as Cross the Edges. Cross the Edges, c'est un jeu de cartes un peu en tour, chacun son tour. Un petit peu à la. Alors je prends aussi une référence un peu plus ancienne et qui n'est pas du tout dans la tokenisation, ni même digitale, mais moi j'ai en tête un jeu à la Yu-Gi-Oh! Et à la Pokémon en termes de cartes. En fait, tu as chacun son tour, on va pouvoir utiliser plusieurs cartes et en fait, il faut combattre l'autre équipe. Ça, c'est des projets français qui proposent des choses qui sont excellentes, qui ont réussi à vraiment travailler leur économie et leur communauté pour que justement le projet ait du sens pour eux. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui ça marche.
Et c'est marrant, tu vois, ces deux jeux qui ont marché, c'est des jeux de tour par tour finalement. Ouais. Et puis c'est du 1v1. Ouais. Est-ce qu'il y a tu penses qu'il y a une raison à ça, que ce soit ces modèles-là qui ont fonctionné, ou est-ce que c'est juste parce que les autres modèles sont trop complexes? Est-ce que tu penses qu'il y a des raisons spécifiques pour que ces modèles aient fonctionné et qu'éventuellement, pour ces raisons-là ou d'autres raisons, c'est d'autres modèles qui vont fonctionner dans le futur? Plus des MMORPG peut-être.
C'est les jeux de cartes, c'est des jeux qui sont assez simples par leur fonctionnement, par leur mécanisme, et donc c'est plus rapide en fait à mettre en place. Et aujourd'hui, avec le switch qu'il y a eu au niveau du Web3 et de la question de la tokenisation des assets dans le gaming, c'est ce qui a permis en fait, c'est ce qui a permis la première adoption au Web3 dans le gaming. Et c'est pour ça que c'est aujourd'hui les jeux qui ont le plus fonctionné. Maintenant, si on se concentre sur des jeux un peu plus complexes, on peut regarder des je sais pas si Illuvium ça vous dit quelque chose ou Time aussi. Time, c'est des projets qui sont sortis également, ils sont encore en bêta, les jeux ne sont pas encore actifs, ne sont pas encore release, mais c'est des jeux qui sont beaucoup plus complexes, avec donc des mondes ouverts, avec la possibilité, on recommence sur cette histoire de quête et sur cette histoire de personnages et cette histoire d'équipement pour amélioration et autres. Et ça, c'est des sujets qui sont extrêmement intéressants et qui sont sur le point d'éclore et qui vont, à mon avis, plaire à beaucoup, beaucoup de monde. Donc, ouais. Au niveau du type de jeu, je pense que c'est assez large, en fait, dans le sens où, oui, ça commence par des sujets assez, assez simplifiés, mais petit à petit, en fait, il y a des sujets beaucoup plus complexes et des mécanismes beaucoup plus intéressants pour le joueur qui vont être proposés. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui sur le marché.
Ouais, parce que Illuvium, ça me dit totalement quelque chose. Et en gros, c'est ça, on attend vraiment, on attend l'arrivée des AAA, des machins et tout. Et en fait, et ça arrive pas vraiment. Et je me suis toujours demandé, en fait, si c'est parce que finalement, il y a vraiment une sorte de... Un peu comme l'huile et... Merde. L'huile et le vinaigre. Non.
Et l'eau.
C'est l'huile et le vinaigre. Bon, en gros,
L'eau,
d'accord, c'est ça. Comme si, tu vois, il y a un truc entre le délire des tokenomics et le délire de l'expérience ludique, il y a un truc qui se passe pas, qui fonctionne pas, ou alors que en fait c'est ça va que intéresser, soit ça va être trop economics based et en gros ça va être niche parce que ça va plaire qu'aux crypto bros, ou alors ça va pas vraiment être comme ça va plus être le truc ludique qui va prendre le dessus et à ce moment-là ça va être mainstream, mais en fait on va retomber dans les travers de l'économie classique des jeux qui existent déjà en fait, donc finalement pas vraiment de gros donc je sais pas, peut-être que je me fais une idée de mauvaise idée, peut-être qu'il va y avoir un truc à un moment donné qui va se passer où il va y avoir les deux, mais j'ai pas l'impression que pour l'instant c'est arrivé, tu vois.
Bah c'est vrai que moi je vois pas exactement comme ça, dans le sens où en fait les sujets dont tu parles qui sont des mécanismes de jeu assez complexes avec il y a toujours eu de l'économie dans ce type de jeu là, c'est juste que c'était pas tokenisé. Donc le fait que ça soit tokenisé, je vois pas comment ça pourrait être un frein dans la partie gaming de ces jeux-là, AAA et autres. Maintenant, le sujet qu'il y a, c'est que lorsque tu veux créer un jeu AAA en proposant une tokenomics qui a du sens pour les joueurs et qui va pas en quelques semaines ou en quelques mois n'avoir plus rien de logique, ça prend du temps et ça prend des investissements qui sont vraiment énormes. Il y a énormément de fonds d'investissement qui ont justement pris la peine d'investir dans des projets de ce type-là, des centaines de projets de ce type-là, il y a des centaines de millions qui ont été investis, parce qu'ils savent que c'est des sujets qui vont prendre des années à être mis en place et ça va prendre du temps de proposer une expérience qui pourra être mainstream tout en alliant cette économie blockchain. Illivium, il y a déjà des alphas qui sont sortis avec des membres qui ont pu tester l'expérience. Le jeu dont je t'ai parlé, qui s'appelle Otia, qui est un projet français, a lancé la bêta de son projet. J'ai pu l'essayer et vraiment, c'est vraiment très attractif et très intéressant en termes de gameplay. Et ça sort très bientôt. Donc, à mon avis, c'est plus une question de temps de production qu'une question d'incompatibilité. Et pour revenir, juste pour faire un lien un petit peu avec du coup la logique derrière mon projet qui est Animagic, c'est que pour aller en fait à contresens de tout ce qui a été fait par ces projets-là, qui étaient en fait des projets qui ont levé énormément d'argent en faisant une vente de NFT avec un beau site internet, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé nos propres fonds pour proposer une première expérience, donc justement sur Decentraland, avec l'objectif d'avoir déjà une expérience de jeu active pour que les gens puissent tester et comprendre l'intérêt qu'il peut y avoir dans une économie telle que proposée par la blockchain dans un jeu tel que celui-là. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on va lever pour proposer une expérience AAA.
Parce que tu vois, je pensais à un moment donné... Je suis un joueur de Quake, un peu à l'ancienne. Ouais. Bien avant la blockchain, tout ça, on se demandait avec des potes pourquoi on ne fait pas un système où, tu sais, on mise de l'argent et puis le gagnant remporte de l'argent et tout ça. Et ça ne s'est jamais fait.
À cause du cheat. Dès qu'il y a du pognon, tu es un joueur de Quake, je suis un joueur de CS. On sait ce qui se passe. Les cheaters, c'est un vrai fléau dans les FPS. Même tous les jours, en règle générale. Et dès qu'il y a un peu d'argent réel, tu es sûr à 100% qu'il y a du cheat.
Ouais, et en plus de ça, la régulation rend encore le sujet encore plus compliqué. Et la blockchain est une solution, parce qu'en soi, la blockchain, ça permet d'avoir une transparence complète. Et grâce aux contrats intelligents, c'est automatisé, c'est décentralisé. Et en fait, tous ces sujets-là sont beaucoup plus simples, en tout cas, dans leur réflexion. En fait, ils ont plus leur place. Et il y a plus d'opportunités pour réaliser des choses de ce type-là.
Et tu penses vraiment que, par exemple, si on intègre un système d'incentive par la blockchain, le shit va disparaître? Je pense pas. je pense que ça va être la même merde.
C'est pas qu'il va disparaître, mais c'est que en fait, la transparence de la blockchain et l'automatisation grâce aux contrats intelligents, pour moi, sont des sujets qui, en fait, permettront de limiter au maximum ces personnes qui vont essayer de manipuler un petit peu l'expérience. Parce que on a une visibilité, en fait. Alors derrière, ça ne veut pas dire qu'on pourra ban ou autre des joueurs, parce que ils ont la propriété sur leur asset. C'est aussi l'avantage de la blockchain. Mais en tout cas, on pourra remodeler l'expérience ou remodeler le système pour que justement, petit à petit, réduire au maximum les risques liés à ça.
Ouais. Faut voir.
C'est mon avis.
D'ailleurs, j'en profite, s'il y en a parmi vous, je ne sais pas si Magic King ou Cryptomancien, si vous avez des choses à ajouter ou des questions à poser, puis même ceux qui sont dans l'audience là, qui veulent poser des questions ou quoi, n'hésitez pas, hein, ouais. Parce que ça fait déjà une heure et demie qu'on est ensemble.
Petit côté un peu technique, c'est un peu pour mon côté tech. Est-ce qu'il y a une partie du... Est-ce que vous avez un repo GitHub, un truc qu'on peut, si on est par exemple développeur, on peut communiquer avec vous, vous faire un petit pull request, vous aider éventuellement sur certaines features, ce genre de trucs?
Aujourd'hui, le projet n'est pas open source, donc non, on est sur GitHub évidemment, mais il n'y a pas.
D'accord.
Pour répondre à ta question, l'objectif, ça sera de rendre public certaines fonctionnalités. Alors, il y a plusieurs intérêts à ça. Il y a le premier intérêt, qui est celui que tu as cité, qui va être justement d'avoir un retour de la communauté ou des développeurs qui veulent nous aider à améliorer l'expérience. Et de l'autre côté, il y a l'idée de qui est amenée par Decentraland, qui est en fait cette DAO avec l'objectif de s'entraider entre expériences sur Decentraland, entre créateurs, pour que toutes les expériences puissent améliorer leur gameplay, quoi.
Et alors, encore une petite suggestion. Alors là, j'en ai fait beaucoup. Là, je pense que là,
ouais.
Alors, si tu veux un truc qui marche aussi très très bien sur EVEonline, ils ont un système d'API,
ouais,
où tu peux construire une application, un truc que tu peux te loguer, enfin faire un truc pour chaque corporation alliance à son système de login, et ils utilisent en fait l'API d'EVEonline pour se loguer, pour avoir certaines informations publiques, pour savoir qui a communiqué avec quoi, enfin qui a échangé avec qui, tu vois, pour éviter qu'il y ait des espions, ce genre de truc. Ça, c'est super, intéressant. Et le deuxième truc, c'est la connexion SSO. Tu vois ce que c'est, une connexion SSO? C'est par exemple, t'as un bouton, au lieu de remplir un formulaire login, au lieu de remplir un énième formulaire d'inscription, tu peux juste faire login with Google, login with Facebook.
Bien sûr.
Et EVEonline, ils ont ce système. C'est-à-dire que quand tu
as
un truc de corpo, tu fais directement, t'as le gros bouton, connectez-vous sur Eve.
Sign in with Google, sign in with Discord, sign in with je sais pas quoi, bien sûr.
Donc ouais, ça s'appelle de l'autre 2. Et l'autre 2, c'est un espace super, tu vois, pour renforcer encore plus sa communauté.
Mm-hmm.
Et voilà, c'est une petite astuce technique, ça peut beaucoup vous aider.
Oui, mais t'as raison, c'est totalement ce que je disais dans la partie adoption du Web3, en fait, c'est qu'il faut passer par ces choses-là. Aujourd'hui, Decentraland le propose. Tu peux te connecter à Decentraland sans wallet, directement avec un compte Google, un compte Twitter ou un compte Discord. Et je suis complètement d'accord avec toi sur le fait que ça a du sens dans le futur pour nous directement.
Ok.
Par contre, la première partie sur l'API avec de Eve, j'ai pas très bien compris ce que tu disais, parce que tu me disais que les gens vont pouvoir se connecter et faire des remarques directement.
Par exemple, tu vois, il y a plein de sites, tu vois, sur Eve où t'as des services externes, tu vois, qui utilisent l'API de Eve, ouais, pour par exemple avoir les dernières ressources du marché, tu vois, les derniers états du marché. T'en as une autre qui utilise une API pour avoir accès, okay, à certaines zones, pour savoir à peu près ce qui se passe sur certaines zones en temps réel. Et puis chaque développeur, tu vas créer un mini-service, il utilise son API, mm-hmm, et puis il y a tout un écosystème autour de Eve qui est justement géré par la communauté.
Je comprends mieux, et ça a beaucoup de sens en effet. D'accord.
Voilà, c'est un truc qui peut énormément vous aider de s'inspirer de Eve.
Je suis d'accord avec toi. Je te remercie.
Bon, moi je propose qu'on clôture là-dessus. parce que ouais, bah, on a, moi j'ai, personnellement j'ai plus vraiment de questions et puis on a fait un tour d'horizon qui était pas si mal, qui était pas exhaustif mais qui était quand même pas si mal et puis c'est ça. Alors tout à l'heure il y a Semissi qui demandait si je dis pas de conneries qui demandait où est-ce qu'on pouvait trouver le jeu en fait, où est-ce qu'on peut trouver Animagic. Donc alors, c'est sur Decentraland.
Animagic, pour suivre les actualités Animagic, donc, on peut suivre nos réseaux, on est principalement sur Twitter, Discord et Discord. Mais pour ce qui est de l'expérience gaming, pour pouvoir tester l'expérience, et bien sûr, je vous invite à derrière me donner un feedback, vos retours pour améliorer avec plaisir, c'est sur Decentraland, en effet. Avec l'objectif de pouvoir du coup lancer une expérience en dehors de Decentraland dans les prochains mois.
Ok, ok. Il faudra qu'on se fasse plus d'émissions sur le thème des jeux vidéo parce qu'on en a déjà fait dans le passé, mais il se passe des choses petit à petit. Et moi, je pense que je suis vraiment. Bah, j'en ai parlé en tout début d'émission. On était pas nombreux, mais je suis vraiment enthousiaste de cette nouvelle hype qu'il y a donc avec Farcaster qui propose de tu sais de mettre des applications dans le feed. Et ça, je pense qu'il y a un truc avec ça. Je pense qu'il y a, il y a un truc avec cette tendance à gamifier les choses qui ne le sont pas. Donc, en gros, gamifier la DeFi, gamifier les réseaux sociaux, etc. Je pense qu'il y a un truc avec ça. Et les cryptos vont jouer un rôle là-dedans, en tout cas.
Je suis complètement d'accord avec toi que la gamification, quelle que soit l'activité, a son rôle de plus en plus. Ça va apporter des éléments et des mécanismes de jeu. Ça permet en fait vraiment d'augmenter le taux d'engagement et la fidélisation. Et c'est d'ailleurs une nouvelle technique de marketing qu'on voit beaucoup.
Ouais. Et non, c'est vrai. Et bon, on va voir ça un peu dans le futur. En tout cas, moi, je vous invite à aller. Tiens, je vais mettre un lien vers Farcaster dans les posts. Je vais faire un post bientôt là pour comme ça, je vais gagner des warps. Et je vais pouvoir les dépenser. J'ai pas tout à fait compris ce que ça faisait, mais en tout cas, je vais essayer d'être riche en warp. Comme ça, j'aurais pas passé ce bull market pour rien. Bon, en tout cas, bah merci beaucoup d'être venu. C'était cool, honnêtement. Même si bon, la question était un peu, j'ai essayé de comprendre ce que tu fais, mais c'était bon, voilà, ça fait partie du truc. Mais c'est cool d'avoir un projet, un projet quoi, et c'est tout simplement c'est bien d'avoir des gens qui font des choses quoi. Et alors je suis pas tout à fait convaincu, tu vois ce que je veux dire, mais c'est bien d'avoir des projets qui peuvent aboutir à des choses, on sait pas, hein, on peut avoir des surprises. J'essaye d'être dire un truc sympa sans non plus dire que j'ai aimé. Je ne sais pas comment faire. J'essaie de faire un truc un peu, une espèce de gymnastique un peu chelou. Mais en tout cas, mais merci beaucoup d'être venu, honnêtement. Et puis, si jamais on se refait un débat sur les jeux vidéo, sur le marché du jeu vidéo, sur le marché du jeu vidéo blockchain ou quoi, et que ça te tente d'y participer, moi, je suis chaud.
Bah, avec plaisir. Merci beaucoup à toi aussi. Merci à tous les participants. J'espère que certains ont compris ce que je faisais, en tout cas. et n'hésitez pas, si vous avez des questions sur le projet, si ça vous intéresse, de nous rejoindre avec grand plaisir.
Yes.
Je vous remercie. À plus.
Et puis, on se dit au revoir sans musique parce que j'ai pas de musique, j'ai pas le matos. Tant pis, désolé. Et on se dit rendez-vous demain. Demain, c'est intelligence artificielle. Et demain, d'ailleurs, ça va être cool aussi parce que on va avec Nicolas de la Blockchain Business School. On va étudier la dernière nouveauté de Midjourney qui est le caractère consistency. Donc ça permet en fait d'avoir des caractères qui sont d'utiliser par exemple de créer un personnage et de garder les traits physiques de ce personnage sur d'autres images. Donc ça permet de créer plein de choses. Ça permet de créer des avatars, des personnages pour des histoires, des bandes dessinées, etc. Et on va explorer cette fonctionnalité et on va en parler. On va voir tout ce qu'on peut faire avec et on va même parler de cas concrets. Notamment, moi, je vais essayer de vous présenter une manière de faire une bande dessinée avec ça.
Donc voilà, ça va être cool et pratique. Donc on se dit à demain pour ça, 22h. Et demain, il y aura le tirage au sort pour gagner une carte Satoshi aussi. Voilà. Allez, ciao.